Russie, l'Europe, Caroline de Camaret.
Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe. Nous sommes ensemble sur France 24 et Radio France Internationale. Nous allons nous pencher cette semaine sur le cas du Portugal. Le 10 mars dernier, l'opposition de centre-droite a remporté les législatives avec une très légère avance sur les socialistes qui gouvernaient depuis 8 ans. Mais son leader, Luis Montenegro, ne sera pas en mesure de former une majorité stable à lui seul, car il a affirmé son refus de diriger le pays avec le soutien du parti populiste Chega, qui a réalisé de son côté une percée. Alors pour en parler, pour parler de ce cas d'école, nous avons le plaisir d'être en duplex aujourd'hui avec Carlos Moedas. Bonjour, monsieur Moedas, vous êtes maire de Lisbonne, la capitale du Parti social-démocrate. Contrairement à ce que son nom indique, c'est la droite qui vient de l'emporter justement au niveau national. En 2021, vous avez même arraché contre toute attente la capitale à la gauche. Je rappelle d'ailleurs qu'entre 2014 et 2019, vous étiez commissaire européen à la recherche, l'innovation et la science. Alors d'abord, cette courte victoire du parti de centre-droit, un parti réuni dans une alliance démocratique, pour l'instant, 2 sièges d'avance sur les socialistes. Vous êtes content de cette courte victoire ?
Bonjour, Caroline, bonjour à toutes et à tous pour l'invitation d'être ici. Je suis très content d'être de retour en Europe avec vous, Madame Europe, et aujourd'hui, dans un jour qui est très, très important pour le pays. On a eu un changement de cycle parce que la démocratie, c'est l'alternance, c'est avoir une alternative, c'est changer. Et la vérité, c'est que le Parti socialiste, il n'a pas seulement gouverné les derniers 8 ans, mais dans les derniers 30 ans, le Parti socialiste a gouverné pendant 23 ans. Et donc, c'est très important pour le pays, ce changement. C'est un changement qui fait partie de la démocratie. Et donc, je suis très content que notre parti a gagné les élections et que Luis Montenegro sera le prochain Premier ministre du pays. Et donc, pour moi, c'est un moment important pour la ville, un moment important pour le pays et un moment important pour la démocratie, surtout qu'on fait 50 ans cette année, qu'on va fêter il y a 50 ans, le 25 avril, notre révolution, la révolution des œillets, qui est arrivée il y a 50 ans. Donc, c'est un moment important aussi de marquer que la démocratie est bien vivante.
Vous parlez de cette, effectivement, révolution des œillets qui a mis fin à la dictature de Salazar, dictature fasciste. Mais en vérité, vous constatez à cette élection précisément le quadruplement des sièges d'un parti d'extrême droite, il faut le qualifier comme ça, Chega, qui décrocherait 48 sièges et qui donc serait susceptible, en effet, d'influencer les autres. Il n'y a pas de majorité absolue pour aucun des autres.
Bon, ça, c'est la réalité qu'on vise, la montée de l'extrême droite, mais aussi la montée des gens qui arrivent plus à y croire dans la politique. Moi, j'y crois que beaucoup de gens qui ont voté pour ce parti d'extrême droite, c'est des gens qui sont en fait mécontents, qui ne trouvent plus la solution dans la politique, qui ne croient plus aux politiciens. Et c'est ça que c'est grave, c'est que pour moi, la démocratie, c'est les institutions, c'est la modération, c'est la tolérance. Et on voit que les gens, ils n'y croient plus. Les partis du centre, et là je parle au nom de tous ceux qui sont des modérés du parti du centre, qui en fait n'ont pas fait vraiment ce travail dans les derniers 10 ans et que le pays a été stagné. Bon, le Portugal, comme vous le savez, a passé des crises, il n'y a pas eu de croissance économique, et à un moment où les gens ils désespèrent. Et donc je pense que ce vote, c'est aussi le vote du désespoir de beaucoup de gens, et on doit respecter ce vote, respecter que les gens ils sont fâchés, mais je suis convaincu que ces gens-là, d'une grande partie, ils n'ont pas voté pour l'extrême droite ou pour du racisme ou du populisme, la xénophobie, et c'est un vote de révolte.
Les élections sont quand même intervenues dans un contexte insensé avec la démission surprise du Premier ministre socialiste qui régnait depuis 8 ans avec une majorité absolue, Antonio Costa, dont le parquet a affirmé qu'il était l'objet d'une enquête pour pot de vin. En fait, c'était un autre Costa. Et puis aujourd'hui, le juge d'instruction parle de raisons légères motivant une possible implication. Est-ce que le président portugais, qui était d'ailleurs pas de son parti, qui était de droite, a eu tort de réclamer cette démission express?
Je pense, je ne vais pas faire des commentaires sur un procès en justice en cours. Moi, je pense que c'est effectivement lamentable tout ce qui s'est passé et ces élections, on ne les attendait pas. Et donc, effectivement, ce que je fais comme lecture, je ne suis pas un analyste politique, je suis un politicien en fonction, c'est que ça montre exactement que les gens aujourd'hui, ils en ont marre de la politique. Et quand on voit des scandales derrière des scandales. Mais ici, le Parti socialiste portugais, si on regarde, il a été d'ailleurs comme en France. Le Parti socialiste, il a un peu alimenté l'extrême droite. Il a créé le monstre. Et donc là, il est en train aussi de payer comme parti ce problème. Et je pense que ça, c'est important de le dire, parce que l'extrême droite n'est pas un produit de la droite, elle est un produit de la gauche et du Parti socialiste qui a beaucoup eu l'intérêt d'augmenter l'extrême droite pour détruire la modération de la droite.
Alors, l'intérêt en puissance de cette extrême droite, c'est un phénomène très récent au Portugal, mais dans le reste de l'Europe, effectivement, elle est déjà actée un peu partout sur un discours anti-migrant et sur fond d'inflation dans l'Union européenne. Le point tout de suite avec Nicolas Chamontin.
André Ventura, conquérant devant ses partisans. Le fondateur de Chega est la nouvelle figure montante de l'extrême droite européenne, une famille politique qui connaît une ascension fulgurante depuis plusieurs années. L'extrême droite est en effet à la tête du gouvernement en Italie et en Hongrie. Elle possède également des ministères en Slovaquie et en Finlande. Enfin, les démocrates de Suède soutiennent l'exécutif d'Ulf Kristersson au Parlement, mais sans en faire partie. Une progression notamment due à un contexte favorable à la banalisation des idées d'extrême droite, selon cette chercheuse.
Auparavant, ces partis étaient exclus du champ des possibles politiques. Ils sont à présent plus communs. Et d'autres formations ont commencé à les normaliser en reprenant leurs idées.
La montée de l'extrême droite a des effets sur le reste de l'échiquier politique. En France, le parti d'Emmanuel Macron tente de rattraper son retard sur le Rassemblement national, largement en tête des sondages à l'approche des européennes de juin prochain. Les observateurs s'attendent à une forte progression des partis xénophobes, populistes et eurosceptiques pendant ces élections et à une reconfiguration des rapports de force au Parlement européen.
Carlos Moedas, on vous retrouve à Lisbonne. Ce qui a été dit sur Chega, à savoir qu'il espérait se hisser au pouvoir, est relativement faux parce que, en effet, vous l'avez dit, le centre-droit de Luis Montenegro a précisé qu'il ne ferait en aucun cas alliance pour être au pouvoir avec un parti d'extrême droite. Comment peut-il gouverner, expliquez-nous, par un gouvernement minoritaire? Ça n'est pas très clair.
Je pense que ça va être clair et c'est aussi un changement de cycle où, en fait, on va s'habituer à gouverner dans la minorité. Moi-même, ici, à la municipalité de Lisbonne, je gouverne dans la minorité. Et je pense qu'on n'avait pas cette tradition, mais on va y arriver. On va y arriver à gouverner, mais on ne peut pas se mélanger avec l'extrême droite. Ça, c'est un message très important, c'est qu'on ne peut pas mélanger effectivement notre point politique avec l'extrême droite.
Comment vous expliquez, à travers toute l'Europe et pas seulement au Portugal cette fois-ci, y compris en France d'ailleurs, un pays que vous connaissez bien, cette poussée de l'extrême droite?
L'extrême droite, c'est vraiment aujourd'hui le désespoir qui a créé le monde digital. Le monde digital a créé effectivement dans le feeling des gens qu'on peut gouverner avec la même vitesse que le digital. Les politiciens peuvent tout faire. Les politiciens peuvent découvrir de résoudre tous les problèmes dans la minute. Et en fait, ce n'est pas ça. La démocratie est faite par des processus, est faite par des institutions. Et donc, on doit vraiment faire comprendre les gens comment marche la démocratie La démocratie a des temps, elle a des moments, et on ne peut pas tout résoudre en même temps. On ne peut pas être, comme les gens y pensent, avec une baguette magique à changer et à faire. Il faut les temps de la démocratie, et ça, il faut expliquer. Et l'extrême droite, ce qu'elle apporte, ce n'est pas de solution, qu'on change tout, qu'on arrive à tout faire. On ne va jamais faire ça. La démocratie, c'est dans le monde physique, comme elle a des parlements, elle a de tous les temps de la démocratie. Et aujourd'hui, en fait, l'extrême droite, qu'un jour va aussi, et on le voit quand ils arrivent au pouvoir, ils changent. Madame Meloni a changé parce qu'elle n'est plus la même, parce qu'elle a vu qu'en fait, être au pouvoir et gouverner, c'est quelque chose de très différent. Donc on doit, d'une certaine façon, prendre le temps. On a créé une assemblée de citoyens à Lisbonne pour que les citoyens y participent dans le gouvernement de Lisbonne, pour que les citoyens comprennent comment ça marche. Et aujourd'hui, on a créé cette idée d'une genre de la baguette, je l'appelle la baguette magique. Et l'extrême droite, on voit ce que Chega et d'autres partis populistes disent, c'est qu'en fait, s'ils étaient au gouvernement, tout serait merveilleux. Ils feraient tout, mais ils ne savent rien faire. La plupart de ces gens, ils n'ont pas d'expérience de gouvernement, ils n'ont pas d'expérience tout court. Et ça, c'est ce qui me fait peur pour le futur. Mais je vous dis une chose, j'ai peur de l'extrême droite, mais j'ai aussi peur de l'extrême gauche. Parce qu'aujourd'hui, on vit un moment où aussi l'extrême gauche est devenue plus agressive, aussi agressive que l'extrême droite. Et donc, on a besoin de la modération. On a besoin des politiciens modérés.
Je rappelle qu'effectivement, vous êtes ancien commissaire européen et donc vous vous intéressez beaucoup à ce qui se passe, j'imagine, encore à Bruxelles et à Strasbourg. Quel scénario vous voyez pour les élections européennes de juin, vu du Portugal, justement ?
Toujours, je dis l'importance de dire aux gens que l'Europe est la base de tout. Aujourd'hui, l'Europe, elle est la base du progrès. L'Europe, c'est la capacité d'une ville comme Lisbonne aujourd'hui investir plus de 500 millions dans le logement. Si ce n'était pas l'Union européenne, je ne pourrais pas le faire. L'Europe, c'est la base de la transition énergétique où je suis en train de construire deux grands tunnels pour les eaux, pour les inondations de Lisbonne, payés par l'Union européenne. Sans l'Europe, je ne pouvais pas le faire. L'Europe, c'est celle qui aujourd'hui permet aux villes de, en fait, protéger les gens. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important d'expliquer aux citoyens de Lisbonne l'importance du vote, l'importance de voter dans les élections européennes. Et aujourd'hui, l'Europe a perdu ce lien. Et je pense que les villes, on est les plateformes qui pourront faire ce lien entre l'Europe et le jour à jour. Aujourd'hui, les gens, ils comprennent plus ce que l'Europe fait. Ils comprennent plus ce que les commissaires européens font. Moi, j'étais commissaire européen. Et donc, en fait, il faut que la Commission européenne ait un lien plus fort avec les villes parce que nous, on est ceux et celles qui, en fait, transforment le message macro, le message qui est là-haut de la Commission européenne, dans le jour à jour, avec des œuvres, avec du concret. Et l'Europe a besoin d'être l'Europe du concret. Et je pense que, pour moi, c'est très important que dans ces élections européennes, on soit unis dans l'importance de l'Europe. On l'a vu avec le Covid, on le voit avec la guerre, et je souhaite que le Parlement européen, l'Europe, continue à être un espace de modération. On sait aussi que les extrêmes, soit de la gauche ou de la droite au Parlement européen, ils sont toujours unis, ils votent toujours de la même façon. Et donc, on revient au même. Il faut être modéré, mais il faut être aussi agressif dans notre modération, parce que sinon on va perdre contre le populisme de la droite et le populisme de la gauche.
Vous apparteniez, en ce qui vous concerne, à la commission de Jean-Claude Juncker, la précédente, donc. En l'occurrence, ces cinq dernières années, c'était une majorité qui incluait votre parti de rattachement, le Parti populaire européen, avec Ursula von der Leyen. Est-ce que vous jugez que le bilan a été globalement positif pour les citoyens, justement ?
Je voulais dire un mot sur Jean-Claude Juncker, qui est un vrai visionnaire de l'Europe. Et donc, pour moi, ça a été vraiment un honneur. Et après lui, Ursula von der Leyen est venue. C'est aussi une grande leader. Je pense qu'elle a été, dans les grands moments, toujours présente. Et elle a toujours été du bon côté. Et donc, je souhaite effectivement que Ursula von der Leyen reste. Elle a annoncé sa volonté, sa candidature pour rester à la tête de l'Europe. Elle, à part l'image extraordinaire qu'elle a comme personne, comme leader, je pense que nous étions là pour le Covid. Regardez un pays comme le Portugal, sans les vaccins qui ont été achetés par l'Europe, comment on aurait fait à notre taille? Dans la guerre, l'aide que l'Europe est en train de porter à l'Ukraine, on est vraiment le pilier. Et ça, c'est le leadership de Ursula von der Leyen. C'est aussi le leadership du Parlement européen avec Roberta Metsola, qui est aussi une grande leader. Et donc, je pense que l'Europe est dans le bon chemin. Mais il faut que l'Europe arrive à communiquer plus avec les citoyens. Il faut que l'Europe soit plus proche. Il faut qu'Ursula von der Leyen et que Roberta Metsola, qu'elles soient plus présentes, pas dans les pays, mais dans les villes. Et je dis ça parce qu'en fait, les politiciens nationaux, ils ont toujours intérêt à dire du mal de l'Europe. Parfois, ça leur donne des votes. Nous, les maires, on adore l'Europe. On dit que du bien de l'Europe parce que l'Europe est là pour nous. Et je pense que ces élections européennes vont être très importantes. Donc, on va, je pense, continuer dans le chemin et Ursula von der Leyen va continuer à libérer la Commission et je souhaiterais aussi que Roberta Metsola continue à la tête du Parlement. Mais bon, ça c'est, je dis ça comme maire, hein, j'ai aucun pouvoir, hein, c'est une opinion personnelle.
Alors, comme maire justement de Lisbonne, vous avez un peu œuvré à ce que votre capitale soit la nouvelle capitale européenne de l'innovation 2024, succédant d'ailleurs à Aix-Marseille. Qu'est-ce que ça change pour cette capitale?
Moi, comme commissaire européen, j'avais lancé le Conseil européen de l'innovation. Et donc, on a développé ici à Lisbonne un projet qui est lié au Conseil européen de l'innovation qui s'appelle l'usine à licornes. Donc, avec ça, on a développé du talent, on a attiré des licornes et unicornes, des grandes entreprises de plus d'un milliard d'euros à venir s'installer à Lisbonne. Maintenant, on a plus de 12. On a 54 entreprises technologiques qui ont créé plus de 10 000 emplois. Et avec ça, on a gagné ce prix qui est vraiment extraordinaire. On a gagné d'ailleurs 1 million d'euros que l'Europe nous a donné avec le titre de la capitale de l'innovation de l'Europe.
Alors, Carlos Moeda, le Portugal menacé de banqueroute a fait appel en 2011 à l'aide financière internationale. Avec l'arrivée d'investisseurs étrangers, ça a quelque peu déséquilibré le marché en creusant l'écart entre salaire et logement. D'ailleurs, à Lisbonne, 26 000 familles vivent dans des logements insalubres avec, effectivement, il y a des salaires minimum à 950 euros et une flambée des prix énorme dans votre capitale. Comment résoudre ce problème du logement?
Bon, en fait, l'Europe, on a signé 560 millions d'euros pour construire du logement ici à Lisbonne. On a déjà 22 000 appartements à loyer modéré, loyer très bas pour les gens qui ont vraiment besoin. Depuis que je suis maire, on a finalisé à peu près 1660 nouveaux appartements qui ont loué soit des loyers qui sont vraiment très bas pour des gens qui ont des vies très, 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 très dures, très vulnérables au prix de 10 euros par mois, 40 euros par mois, dépendant de ce que les gens ils ont comme capacité à la maison de payer. Et après, pire que ça, aujourd'hui, les professeurs, les policiers, ils n'arrivent plus à payer un loyer. Et donc, on est en train de développer exactement pour ces professionnels-là des loyers qui sont autour des 200 euros, 300 euros pour qu'ils puissent payer. Et donc, ça, c'est un phénomène qui arrive dans beaucoup de villes en Europe, la montée du prix de l'immobilier. Et ce montée de prix, elle doit être compensée par des politiques publiques.
Merci Carlos Moedas d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi cette émission sur France 24 et Radio France Internationale. L'actualité continue sur nos deux antennes. Restez avec nous.